Aujourd'hui, c'est avec une vive émotion que je peux enfin parler à l'antenne.
Une femme, c'est pas juste un truc qui sourit et qui a la peau douce. Une femme, ça bouge, ça pense, ça évolue.
Sorcière.
Tu parles comme un homme. Tu bois comme un homme, ça ressemble à quoi, ça, franchement? Pas comme ça que tu vas trouver quelqu'un, je te le dis tout de suite. Hein.
Quand elle a son poum poum shot, et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend dingue. Boy, quand elle whine dans son shot, et y'a pas que chez toi qu'elle a causé un choc, elle est trop belle. S'il est trop maligne pour toi, tcho, dis-toi qu'une fille comme elle ne se dompte pas, laisse courir à boy, car ça devait finir comme ça.
Bonsoir et bienvenue chez les
Sorcières!
Salut à toi, amis des sorcières, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour tes chroniques préférées sur ta radio préférée avec ton animatrice préférée. Bon, le dernier point, t'as peut-être raison puisque c'est la première, mais tu vas voir, dans ce rôle, ça va être super sympa. On va passer un très bon moment ensemble. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être très bien accompagnée autour de mon chaudron. Chacune a mis du sien pour te concocter une petite mixture dont tu m'en diras des nouvelles. Car oui, on le sait, c'est décembre, t'as la flemme, t'as bien envie de rester au fond de ton lit, mais je te promets une heure d'écoute vitaminée et un peu gibrée, faut le dire. Un peu comme la glace de Noël que tu prendras de trop. Mais oui, Ghislaine, faut se faire plaisir. À quoi bon avoir hanté la crise de foi sinon? Bon, sans plus attendre, une petite présentation de cette fine équipe. Évidemment, toujours la tête au-dessus du chaudron, nous avons Cécile qui est venue en bonne compagnie. De qui? Vous le saurez bien vite. Florine, enfin de retour pour nous parler d'une vieille coutume sociale. Qui dit vieille coutume, dit-elle sexiste?
Nous le saurons bientôt.
Exactement. On a également le duo de choc à la technique. J'ai nommé Anna et Morgane.
Oh yeah. Salut.
Et en dilettante, vous pourrez entendre la douce voix de votre animatrice en chef, Stouff.
J'ai fait une chronique.
Et comme on dit, le meilleur pour la fin, aujourd'hui nous accueillons Adeline pour son premier jour à l'école des sorcières.
Bonsoir.
Welcome.
Elle nous parlera d'Abbey Beach ou peut-être de la difficulté à tenir sur un balai. Mystère et boule de gomme, plus qu'à écouter pour le savoir. Je te laisse la parole, Adeline.
Eh bien, bonsoir. Donc, ouais, c'est ma première chronique. Donc, voilà. Soyez indulgents.
Oui.
Voilà. Alors, oui, je vais vous parler d'une artiste que j'ai eu l'occasion de voir en octobre dernier à la MJC à l'Antipode à Rennes, dans le cadre d'une conférence dansée qu'elle nomme Décoloniser le dance floor. Donc, cette artiste, c'est Abbey Beach. Donc, Abbey Beach est une danseuse, une chorégraphe, une performeuse, une conférencière, une militante féministe. Pro-palestinienne, queer, non-binaire, intersectionnelle, la liste est longue. Donc Abbey Beach, de son vrai nom Licia Benoufella, est née en Algérie. Elle est arrivée en France avec ses parents à l'âge de 4 ans, suite à la guerre civile qui sévissait en Algérie à ce moment-là. Elle grandit ensuite en Vendée et rêve de devenir danseuse depuis l'enfance. Plus tard, elle s'inscrit en classe préparatoire littéraire, qu'elle suivra 2 ans. Elle intègre un master en études du genre à l'Institut de sciences politiques à Toulouse, où elle s'intéresse au concept d'intersectionnalité. Donc c'est quoi l'intersectionnalité?
Ingrid nous en avait parlé.
Écoutez la chronique de... quel mois par contre? De Ingrid. Je
m'en rappelle plus moi.
Avec à écouter.
Pourtant, Cécile, t'avais dit qu'elle l'avait tellement bien expliqué que t'avais compris.
J'ai les carottes, c'est les conneries.
Bon, alors j'espère que ce sera aussi clair, je sais pas, mais on verra. Donc en 2 mots, l'intersectionnalité, c'est un concept qui est employé en sociologie et en réflexion politique. Elle désigne la situation des personnes subissant plusieurs formes de discrimination ou de domination, notamment de classe, de sexe et de race. Donc pour Abbey Beach, le concept d'intersectionnalité lui sert de base pour développer son activisme, notamment à travers sa pratique artistique. Donc elle s'empare du voguing et du walking. Je ne sais pas si vous connaissez le voguing et le walking.
Qui fait ça, Adrien?
Donc on ne voit pas.
Moi, je veux bien savoir.
Donc ce sont des danses de résistance, de résilience créées dans des communautés LGBT américaines dans les années 70 pour exprimer un engagement politique. Donc, elle découvre Abby Beach le voguing lors d'un voyage à San Francisco. Elle participe à un festival de films LGBT où est projeté le film Paris is Burning de Jenny Levington, qui est aussi pour elle une vraie révélation. Donc, petite parenthèse, Paris Burning, c'est un film documentaire qui date de 91, qui s'intéresse au ballroom culture new-yorkaise des années 80. Donc, le réalisateur, il se rend dans des balls organisés dans les communautés LGBT afro-américaines et hispaniques. Donc, qu'est-ce que c'est les ballrooms?
On apprend trop de vocabulaire avec toi.
Donc, la ballroom, c'est un espace d'expression donc, qui est apparu dans les années 20, qui a pris de l'importance dans les années 70-80. Donc au cours de ces soirées, les participants s'affrontent dans des sortes de défilés à travers de la danse. Donc c'est dans ces balls qu'est né le voguing, donc, ou dit autrement le vogue. Donc c'est organisé par house, par maison. Donc les maisons, c'est comme un système communautaire d'entraide qui sert de famille alternative, principalement constitué de jeunes noirs et latinos queer. Et sont supposées offrir des safe places. Donc elles sont dirigées par des mères ou des pères qui procurent généralement du soutien et des conseils aux enfants, entre guillemets. La plupart des maisons fonctionnent sur le même modèle. Donc comme je disais plus haut, le voguing, donc pour revenir sur Abby Beach, a été une vraie révélation pour elle. Donc déjà militante, vivant dans un squat et évoluant dans un milieu anarcho-queer et féministe. Découvrir cette danse, c'était un peu comme si tout ne devenait qu'un, son engagement politique et sa passion pour la danse. Donc c'est ainsi, quand elle revient en France, elle commence à graviter autour de la communauté voguing parisienne, notamment le Paris Ballroom scène. Elle rencontre Kiddy Smile. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, Kiddy Smile.
Si.
C'était un des jurys de la compétition Drag Race, la compétition de Drag Queen. Voilà. Et qui est aussi une figure incontournable du voguing en France. Donc il l'a fait entrer donc, dans sa house, sa maison, donc, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Et pour finir, donc, Abby Beach, à travers des danses que sont le walking, le voguing, elle tente de casser des représentations des normes de beauté occidentale, donc mince, blanche, la peau épilée, douce, avec du caractère mais pas trop, et proposer quelque chose de différent de la norme, quelque chose de différent puisse exister. Et validée dans une autre beauté. Donc de se réapproprier son image à travers la façon dont elle en a envie. C'est alors qu'on l'a vue comme elle a été danseuse dans une tournée mondiale de l'artiste non-binaire Sam Smith. On l'a vue aussi en tant que danseuse aux Victoires de la Musique de l'artiste Izzet. Donc du coup, où les danseuses avaient des corps très différents et étaient mis en avant. Donc pour elle, pour finir, Abby Beach dansait ses politiques. Lors de la conférence Décoloniser le Delphore, que j'ai trouvé assez pointue, elle aborde des concepts fondamentaux comme le racisme, les privilèges, l'intersectionnalité, l'appropriation culturelle, les dynamiques de domination ou la résistance. C'est en effet une performance qui montre qu'entre la mise en mouvement des corps et la mise en mouvement politique, il n'y a qu'un pas, trois petits points, de danse. Voilà.
Merci. What are you looking at?
Thank you.
Bon, bah Adeline, on peut dire que c'est une première réussie.
Ah bah merci.
Félicitations. Bravo. Bon, Florine, t'aimes bien qu'on tienne la porte?
Effectivement, je vais vous parler d'un sujet qui peut faire débat. Il s'agit de la galanterie. Oui, la galanterie, donc ce petit geste qui peut consister à tenir une porte, à offrir des fleurs ou à payer l'addition. Mais au-delà des apparences charmantes, qu'est-ce que la galanterie ? Un simple geste poli, un art de vivre à la française, une manière sournoise de maintenir les femmes dans une position de faiblesse. En fait, à la base, le mot galanterie vient de l'ancien français « gal », qui signifie « joie, amusement ». Donc à l'origine, être galant, c'est être agréable, enjoué et surtout savoir se comporter dans les cercles mondains. Rien à voir donc avec le fait d'ouvrir une porte ou de payer l'addition. Mais on va y revenir plus tard. Pour le Larousse, la galanterie, c'est une politesse empressée envers les femmes. On qualifie les hommes galants de courtois, polis, délicats. Tandis qu'une femme galante, bah, c'est une femme aux mœurs légères. Et pour beaucoup, en fait, la galanterie, c'est l'envers de la goujaterie. L'homme galant, alors, il est une oasis de douceur dans un monde de brutes. Prenons cette idée, qu'ouvrir une porte ou offrir sa place, c'est rendre le monde plus agréable. Ok, pourquoi pas. Mais alors, pourquoi ces gestes ne sont-ils jamais qualifiés de galants quand ce sont des femmes qui le font ? Une femme qui tient une porte pour un inconnu, c'est de la courtoisie. Une femme qui offre un dîner à son partenaire, c'est de l'attention, mais pas de la galanterie. D'ailleurs, bah, la définition, elle est formelle. On parle de galanterie pour qualifier des comportements d'hommes envers des femmes. Si la galanterie est une marque de politesse, c'est une politesse genrée. Avez-vous déjà entendu parler de la notion de sexisme bienveillant, chère sorcière ?
Non.
Non ? Eh bien, contrairement au sexisme hostile, il est ouvertement méprisant. Par exemple, les femmes sont nulles en maths. Les femmes sont si douces qu'elles méritent d'être protégées. Eh bien, le sexisme bienveillant, il se cache derrière des attentions apparemment aimables. C'est le fait de maintenir des inégalités de genre, non pas par des insultes ou des interdictions, mais avec des compliments. Par exemple, les femmes sont trop précieuses pour qu'on les laisse se fatiguer. Bon, alors là, j'ai entendu un peu tout à l'heure, il y a des collègues sorcières qui ont déjà bondi sur la table du studio et qui s'insurgent que ça insinue que les femmes seraient faibles ou peu autonomes, tandis que les hommes seraient là pour les épauler. Eh bien, accrochez-vous. Parce qu'en fait, la science a étudié ça de près. Dans les années 90, deux chercheurs américains, Peter Glick et Suzanne Fiske, ont mis au point un outil appelé Ambivalent System, Inventory. C'est un test qui mesure les deux facettes du sexisme, donc l'hostile et le bienveillant. Et ils ont découvert que ces deux formes de sexisme vont souvent de pair, c'est-à-dire que les personnes qui pensent que les femmes doivent être protégées et traitées comme des princesses sont souvent les mêmes qui considèrent qu'elles n'ont rien à faire au poste de pouvoir. En gros, c'est le combo sainte ou sorcière. On encense les femmes, mais on leur refuse l'égalité. Encore plus frappant, une étude menée par Benoît Darène, professeur de psychologie sociale, montre que le sexisme bienveillant peut avoir des effets déstabilisants sur les femmes. Jusque-là, ça va, on est plutôt d'accord. En fait, voici l'expérience. Ce sont des étudiantes qui passent un entretien fictif avec un recruteur. Et ce recruteur peut adopter trois attitudes. Une neutre, une sexiste hostile ou une sexiste bienveillante. Et ensuite, on leur fait passer un test d'attention et de mémoire. Le résultat, c'est que des femmes exposées à un discours neutre ou hostile s'en sortent à peu près de la même manière. Mais celles qui sont confrontées au sexisme bienveillant avec des phrases du genre « Les hommes doivent aider les femmes à s'adapter », voient leur performance chuter. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce discours ambigu génère des pensées intrusives. Est-ce qu'il me prend pour une incapable ? Est-ce que je dois sourire pour être polie ? Bref, difficile de se concentrer. Et c'est pas tout. Il y a d'autres études, comme celle de Marie Sarlette qui montre que ce type de discours pousse les femmes à moins revendiquer leur indépendance car elles intériorisent l'idée qu'elles doivent compter sur les hommes pour réussir. Subtil, mais redoutablement efficace. Je vous propose maintenant de faire un bond dans le passé. Parce que, surprise, la galanterie n'a pas toujours été cette politesse un peu désuète des hommes envers les femmes. Au XVIIe siècle, c'était une révolution culturelle. Imaginez des salons littéraires où hommes et femmes discutent d'égal à égal, où les femmes, souvent reléguées à la sphère privée, prennent enfin la parole. Enfin, des femmes nobles, hein, bien sûr, pas les pauvres, hein, on va pas trop en demander non plus, bande de woke. On sort donc d'une époque qui est ponctuée de guerres, de violences, pour imaginer des nouvelles façons de se comporter, basées sur la douceur, la retenue et surtout le respect. Donc la galanterie, de sa première étymologie, hein, qui signifie joie et amusement, dont je parlais, c'est alors une manière de réinventer les rapports entre hommes et femmes, au-delà des rôles figés qui sont imposés par la société. Madeleine de Scudéry est une grande autrice de l'époque et elle en fait un outil d'émancipation. Dans ses récits, elle valorise la maîtrise de soi, les conversations subtiles, tout le contraire des amours fugueuses, jalouses qu'on voit dans les pièces de Racine. Mais, comme souvent, certains hommes ne l'ont pas vue d'un bon œil. Molière, par exemple, il s'en moque dans Les Précieuses Ridicules. D'autres, comme Rousseau, il craint que le théâtre galant effémine les mœurs. Ça vous rappelle peut-être quelqu'un. Pour eux, ces femmes galantes qui discutent avec des hommes et remettent en question les rapports entre hommes et femmes sont dangereuses. Et petit à petit, la galanterie est récupérée et transformée. L'idée est réduite à un jeu de séduction où les hommes prennent l'initiative et où les femmes se contentent de rougir et de sourire. On connaît la suite. Et donc la galanterie, c'est un concept qui touche à des questions fondamentales comme l'égalité, le pouvoir, les rôles genrés, et qui a bien changé au fil des siècles. Elle est passée d'une révolution culturelle à un outil d'infantilisation avant de devenir cette politesse un peu mécanique qu'on connaît aujourd'hui. Le problème, selon moi, c'est pas de payer un café, tenir une porte ou d'offrir des fleurs, mais bien l'inégalité de traitement qu'il y a entre les hommes et les femmes. Ce sont bien des gestes qui font plaisir, à condition qu'ils soient faits sans arrière-pensée, qu'ils s'adressent à tout le monde, indépendamment du genre. C'est un peu banal ce que je dis, mais voilà, c'est pas une raison pour arrêter d'être poli ou attentif, parce qu'on peut plus rien dire. Non,
on peut plus rien dire.
Quand je pose la question à des lycéens et lycéennes, certains affirment que c'est une manière subtile de rappeler aux femmes qu'elles sont différentes, qu'elles doivent être protégées, voire guidées, que c'est un comportement donc infantilisant. Mais beaucoup assurent aussi que la galanterie, elle disparaît au profit du respect mutuel. Et si on réinventait la galanterie ? Et peut-être qu'il est temps de revenir à son sens originel, celui du XVIIe siècle. Une invitation à réfléchir à des relations plus équilibrées, plus respectueuses et surtout plus égalitaires. Et donc, ça m'amène à vous poser la question, chère sorcière, qu'est-ce que vous en pensez ? Galanterie ou pas galanterie ?
Alors moi, je sais que... c'est ce qui est drôle, c'est qu'avant, on servait les femmes en premier par galanterie. Mais en fait, c'était pour qu'elles bouffent froid, parce que les hommes servis en dernier, eux, mangeaient chaud. Voilà.
Comment ça, ils mangeaient chaud ?
Eh bah, bien, eux, ils étaient servis en dernier, donc leur bouffe était chaude.
Parce que les femmes, elles attendent.
Tout le monde attend que ce soit comme
un manger. Ah, d'accord. Bah ouais.
Faut tout voilà. m'expliquer.
Non, mais ça, c'était...
Moi, chaque fois qu'on m'ouvre la porte, je me dis, est-ce que c'est pour mater mon cul ? Ou est-ce que c'est vraiment pour... Voilà.
Bon, vas-y, maestro, fais péter la musique.
I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club.
on my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away, saying, God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh, mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong.
Après cette douce musique, si on restait un peu dans la musicalité, Morgane ?
Oui, tout à fait. Donc, je vais essayer de prendre la voix d'Ingrid, mais c'est compliqué avec ma voix enrhumée. Non, bah, Ingrid, elle a eu une super idée il y a quelques semaines. C'est que bah, l'émission Sorcière, elle existe depuis quelques années déjà, n'est-ce pas, Stéphanie ? C'est la quatrième année.
Oui.
Et donc, vous en avez passé des titres. On en a passé des titres depuis 4 ans. Enfin, depuis 3 ans et quelques. Et donc, elle voulait qu'on fasse une petite playlist. Donc, voilà.
Elle voulait qu'on offre un cadeau aux auditeurs.
Oui.
Ouais, elle voulait offrir.
La playlist de Noël.
La playlist des sorcières pour Noël.
Voilà.
Et on a toutes trouvé que c'était une super idée.
Donc, voilà. Je m'y suis attelée, hein, comme je suis préposée à la chronique musicale dans cette émission. Bon, c'est... Voilà. Donc, vous pouvez écouter un premier jet dans la discothèque de... elle est passée le 18 novembre. Et la seconde passera le 16 décembre.
Donc là, t'as fait...
La discothèque de sorcières.
Donc là, t'as fait une sélection.
Je rends fémage à l'émission Sorcières.
Sur quelle plateforme on peut retrouver ça ?
Sur le site de L'Autre Radio. Vous tapez L'Autre Radio,
c'est ça ?
Discothèque 2. Mais oui, vous pouvez nous donner. Oui, on en reparlera après, hein, Stéphanie. Et donc, la discothèque 2 sur L'Autre Radio. Et vous entendrez les deux discothèques. Enfin, elle n'est pas encore faite, celle de décembre. Mais en tout cas, vous tapez Sorcières, L'Autre Radio. Et vous allez tomber de suite sur Playlist l'autre de sorcières. Donc vous allez voir les 100 et quelques titres qui sont passés depuis le 21 septembre 2021.
Et il y a des pépites.
Oui, tout ouais, à ouais, fait.
Ouais, ce n'est que des pépites. Vous pouvez mettre dans votre bagnole le matin avant d'aller au boulot.
6 heures de musique, tu disais, Morgane ?
Il y a 5h50 quelques minutes.
Ouais.
Voilà. Donc c'est une petite playlist. Alors c'est sur Spotify. Vous pouvez le télécharger gratuitement, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner premium.
Il y a les pubs.
Ouais, t'as mis sorcière point d'interrogation, hein, c'est ça ?
Ouais.
Et puis moi, je l'ai écouté un peu là sur Spotify, donc je suis tombée sur le petit pull marine. Il n'y a pas que des chansons de femmes et féministes, mais il y a beaucoup de femmes dans cette playlist.
Il y a beaucoup de femmes.
Ouais, il y a beaucoup de noms de femmes.
Ingrid, elle a fait toute la liste. Elle a écouté tous les titres depuis
alors,
2021.
Alors, il en manque quelques-uns.
Ah.
Ouais, je crois qu'il manque Aloïs. Ouais, il manque que Crop Top d'Aloïs bon. Sauvage, je crois, et une
je
autre que j'aimais bien. Mais
je peux les
voilà, t'inquiète, pas de problème.
Si vous avez des revendications, c'est c'est ici.
C'est la journée.
C'est la journée. Nous sommes le 5 décembre 2021. On n'était pas très nombreux à Laval. Je suis un peu déçue. Enfin bon, bref. Voilà, vous tapez donc L'Autre Radio Sorcière et vous tombez sur la playlist. C'est cadeau. Joyeux Noël.
Et justement, on va rester dans les actus avec Stouff qui nous présente son petit agenda culturel.
Et alors voilà, après avoir fait ma première chronique cinéma le mois dernier, je me suis rendu compte qu'écrire une chronique cinéma, bah, ça prend du temps. Et moi cette année, mon temps file à toute vitesse, ma tête va exploser, mais j'ai quand même envie d'être parmi vous les sorcières, hein, comme on le disait avant que cette émission commence, je n'arrive pas à lâcher les micros. Alors je me suis dit, Stéphanie, trouve une idée simple, rapidos, facile à mettre en œuvre pour prendre une petite place dans l'émission de décembre. Alors à la fin de l'émission du mois de novembre, micro coupé, j'annonce à mes sorcières que je ferai une actu culturelle, un agenda tranquillou. On raconte ce qui se passe culturellement à Laval, voilà, voilà. Vous allez vous parler marché de Noël, concert au 6x4, soirée au théâtre à Laval, à Loiron ou au carré de Château-Gontier. J'allais vous parler de la nouvelle affiche du festival au foin de la rue, qui lance sa com pour cet été et met en vente ses premiers billets avec une billetterie passe de jour à 52 €. J'allais vous parler de... Il y en a plus ? Ah bah, il y en a déjà plus. Bon bref, j'allais vous parler... Eh ben non, en fait, tout ça, c'était avant... avant Madame Morancet et le séisme qui a eu lieu dans le secteur associatif des Pays de la Loire, avec l'annonce de Christelle Morancet, présidente de la région, qui annonce des coupes des subventions d'environ 73% pour les secteurs de la culture, entre autres. Alors, ce n'est qu'un exemple, mais pour vous donner un ordre d'idée, si jamais vous n'êtes pas au courant, parce que s'il y en a certains qui ne savent pas revendiquer leurs idées, la culture, elle sait le faire, elle sait se montrer. Mais le chaînon manquant est particulièrement touché par cette baisse de subventions, car le montant de ces subventions régionales, donc annoncées, passe de 160 000 € à zéro. Voilà. Waouh. Alors c'est un peu sec, hein. On savait que l'on vivait dans une époque morose, qu'il fallait faire des économies, mais quand même, c'est un peu agressif cette façon de faire. Allez hop, on coupe tout, ciao les gueux, et tout le monde au boulot, hein. C'est fini la bamboche. Comme disait déjà en 2020 un préfet du centre Val-de-Loire, je vous conseille de réécouter la chronique de Thomas VDB, En finir avec la bamboche, sur France Inter. Quand j'ai un coup de déprime, je me la remets. Alors, comment ça, l'art, ça fait rêver? Comment ça, l'art, ça fait réfléchir? Comment ça, l'art est créateur de liens sociaux et d'émancipation? Et est-ce que ce serait pas un peu d'utilité publique, la culture? Eh bien, les subventions à la culture permettent des prix raisonnables. Par exemple, au 6x4, si vous avez une place de concert à 15 € et pas à 30, c'est aussi parce qu'il y a des subventions et de l'argent public. Ça permet aussi une émergence des artistes en région, mais aussi des lieux culturels délocalisés en région. Alors moi, je pars une fois par an en week-end à Paris avec Cécile, on adore parce qu'on fait plein de culture et tout. Mais franchement, c'est un budget, hein, ma Cécile.
Ça nous coûte vraiment cher.
Ouais, ça nous coûte cher. Donc ça veut dire... Donc ça veut dire que quoi, dans les Pays de la Loire, eh ben, si on veut de la culture, il faut qu'on change de région. Voilà. Au-delà de la coupe budgétaire annoncée qui va peser sur des manifestations, des emplois, des retombées économiques aussi, bah oui, parce que quand il y a le chaînon manquant, les trois éléphants, c'est aussi des nuitées d'hôtels, c'est aussi des restaurants qui font le plein. Donc c'est la méthode qui interroge, sans concertation, des annonces par SMS, des tweets agressifs de Madame Morancet. Je cite « La culture serait donc un monopole intouchable, le monopole d'associations très politisées qui vivent d'argent public. Quelle est la pérennité d'un système qui, pour exister, est à ce point dépendant d'argent public? N'est-ce pas la preuve que notre modèle culturel doit d'urgence se réinventer ?» Alors je vous ai fait un petit combo du tweet, hein, je vous ai pas tout mis parce que on n'a pas que ça à faire. Eh bien, Madame Morancet, se réinventer, ça ne se décrète pas en 2 mois. C'est possible de se réinventer, mais ça se construit, ça s'accompagne, ça prend du temps. Les associations ne sont pas des enfants mal élevés et ignorantes. Elles aussi, elles gèrent des budgets, elles équilibrent les ressources humaines, elles cherchent les économies, elles réfléchissent aux projets d'avenir avec un budget prévisionnel qu'elles gardent bien présent sous leur nez. Alors attends, parce que je parlais de culture et maintenant je parle d'association. Eh bien oui, car si le monde de la culture sait se mobiliser, ce n'est pas le cas de tout le monde, comme je le disais. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Oh, je suis émue. Ça fait moins de bruit médiatiquement, mais d'autres associations, œuvres qui œuvre dans les domaines du sport, du social, des égalités femmes-hommes. Tiens donc, on en parle dans Sorcières. Et aussi les associations écologiques sont touchées. Selon Madame Morancet, la région se recentre sur ses missions premières, les plus légitimes et les plus utiles. L'emploi et la jeunesse, par exemple. Alors pourquoi supprimer en totalité la subvention des missions locales qui accompagnent les jeunes dans leur recherche d'emploi ? Ah, parce que peut-être que c'est des jeunes un peu pauvres, un peu paumés, qui cherchent leur voie. La lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité nationale auprès de Monsieur Macron et des lois sont légiférées pour tenter d'atteindre ces objectifs. Alors pourquoi couper les subventions des plannings familiaux et des CDI et des CIDFF, donc Centre d'information du droit des femmes et des familles, qui sont des lieux ressources, des lieux de prévention pour les femmes et des lieux où elles peuvent avoir connaissance de leurs droits. Bref, vous l'aurez compris, pour moi qui travaille dans des associations à caractère social, la mission locale et le CIDFF sont pour moi des partenaires. Pour moi qui apprécie chaque année de me rendre à des manifestations culturelles, de passer une soirée au théâtre ou aller voir un concert qui engage mon temps libre, moi qui engage mon temps libre et mon énergie pour administrer des associations comme l'Autre Radio ou des associations sportives, pour moi qui m'inquiète pour l'avenir de notre planète et qui tente d'être respectueuse de notre environnement, je me sens méprisée par Madame Morancet, par ses tweets agressifs et sa vision de la politique, qu'elle soit culturelle ou sociale. Madame Morancet, votre monde n'est pas le mien. Mes chers auditeurs, si l'envie t'en vient de pouvoir t'évader, il te reste un peu de temps pour le mois de décembre. Donc, eh ben faisons un petit agenda culturel quand même. Au 6x4, vous pouvez aller voir Delgrès le 17 janvier entre Rock Sous Hypnose et groupe de blues créole français. Delgrès, c'est un nom qui est un hommage à l'anti-esclavagiste antillais Louis Delgrès qui existe depuis 2016. Je les ai déjà vus à Loiron et c'était super. Il y a aussi Dacabra, c'est hyper dur à dire, Dacabraca le 19 janvier, donc c'est un dimanche en fin d'après-midi. C'est pareil, déjà vu dans un autre festival au bout du monde, c'est un quatuor de musique de femmes, musique du monde. Elles viennent de Kiev en Ukraine et ça a été créé en 2004 et elles transforment en musiques actuelles un répertoire folklorique combinant différents styles musicaux. Mais j'oublie pas aussi au Théâtre de Laval le 16 et 19 décembre, Molière en pièces de la compagnie du Théâtre d'Air. C'est une compagnie mayennaise qui revisite Molière de façon moderne. Voilà, ça peut être un bon kiff. Et le 14 décembre, il y avait Kerry James, où il y aura, je ne sais pas quand passe l'émission, Kerry James, donc ce rappeur qu'on connaît bien, pour le spectacle à huis clos. Voilà. J'ai parlé longtemps.
Merci, Steph. Oui, bah, c'est important.
T'as parlé pour nous.
Wow. J'espère que la fille de Morancet aura pas besoin d'aller prendre la pilule au planning familial et que sa mère l'aura bien accompagnée.
Et le maire de Château-Monty aussi, hein, ouais. Soit dit en passant.
Je sais pas prévoir mes états d'âme.
Je peux sentir monter les larmes sans comprendre pourquoi. Mais je sais me tenir, alors j'intériorise. Et puis je laisse venir ce qui me terrorise. J'accueille mes démons comme des copains, mes rebonds comme des soutiens. Et j'accepte bien les très hauts, les très bas, les très hauts, les très bas. Mon ego qui se débat pour mener le combat, de recevoir ce qui m'assure ou qui m'offense, avec la même indifférence. Ce qui rassure ou qui offense, avec la même indifférence. Ce qui compte, c'est de savoir qu'on n'est pas constant. Que la route est longue, longue, et que depuis tout ce temps, que depuis tout ce temps, on commence à savoir qu'il faut pas trop se fier aux immenses désespoirs, aux joies injustifiées, aux grandes montées, aux grandes descentes. À n'importe quelle pente, si elle est trop violente, le chemin c'est le bon, il est sinueux, c'est tout. Mais il sera beau partout, donc il sera sincère, avec ses moments roses, avec ses moments de guerre, avec ses quelques pauses où tout paraît très clair, et puis d'un coup, sans qu'on y comprenne rien du tout, ça devient tout flou, tout flou. C'est ok, ça ira, c'est comme ça que t'es fait. Ça passera, ça reviendra, ça fera le même effet. Dis-toi bien à chaque fois, ça n'est que passager. Ça n'est que passager. ça n'est que passager. Je sais pas prévoir mes états d'âme, c'est vrai. Mais bon, je commence à savoir les dompter. Ça veut pas dire les mettre au pas, ça veut pas dire les nier. C'est juste un tout petit pas en arrière pour voir vrai ce que ton corps t'annonce comme une grande gravité. Le corps annonce trop fort, je sais depuis que je suis né. Alors autant attendre, puisque c'est passager. On l'a dit, c'est vrai, ça n'est que passager. Respire aussi fort que ton corps te le dit. Aussi fort que ton corps te le dit. Ce qui compte, c'est de savoir qu'on n'est pas constant. Que la route est longue, longue. Et pendant tout ce temps, pendant tout ce temps, bien sûr qu'on va encore changer. Bien sûr qu'on n'est pas fini. Bien sûr qu'on va progresser. Vieillir, c'est de la sagesse qui grandit. Mais il y en a tellement des gens, tu sais. Il y en a tellement qui omettent. Le plus grand danger qui les guette, c'est d'oublier qu'un jour ça s'arrête. T'as un peu de temps pour te laisser tranquille. T'as un peu de temps pour t'aimer. T'as un peu de temps pour te dire c'est facile. Il suffirait de se laisser aller. T'as un peu de temps pour te laisser tranquille. T'as un peu de temps pour t'aimer. T'as un peu de temps pour te dire c'est facile. Il suffirait de se laisser aller. C'est ok, ça ira. C'est comme ça qu'on est fait. Ça passera, ça reviendra. Ça fera le même effet. Dis-toi bien à chaque fois. Ça n'est que passager. Ça va te soulager. Ça n'est que passager.
Ouais. Passager de Ben Mazoué. Merci pour cette belle chanson qui a été choisie par quelqu'un, mais par qui ?
Amel.
Par Amel, mais Amel, tu es notre jolie passagère et notre invitée ce soir. Pourquoi tu as choisi cette chanson ?
Parce que je trouve qu'elle est thérapeutique.
Ah, chouette. C'est cool. On a invité Amel ce soir et nos sorcières autour de la table ne savent pas quel est son métier. Son métier est peu connu, donc avec Louane, on s'est dit, tiens, on va inviter Amel. Donc j'ai plusieurs possibilités, vous allez donc essayer de deviner son métier. Alors, petit 1. Branleur de dindon.
Branleuse.
Petit 2, voix de la SNCF. Elle a une jolie voix, non ? Ouais.
Train en provenance de...
Ah ouais, t'arrêtes, ils vont deviner trop vite. Créatrice de mots croisés. Non. Créatrice de blagues carambars ou un autre métier.
Un autre métier.
Oh là là, déjà, bien tu vois, elles sont fortes. Hein.
Ouais, elles sont fortes. Hein, elles sont
je t'avais
très
dit.
Fort. C'était chaud pourtant.
Je t'avais dit. Alors, donc, pour faire deviner ton métier, déjà, Amel, tu nous as apporté un petit objet. Est-ce que tu peux nous le décrire à quoi ça ressemble, sans donner le...
En fait, ça ressemble à une sorte de caducée en métal qui...
De quoi ? Un caducée ?
Oui.
C'est quoi ?
Un caducé.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un caducé, c'est le symbole de la médecine.
Ah, ce qu'il y a sur les petites
voilà,
trucs.
D'accord, tu vois. C'est, okay. Et en fait, c'est un truc qui fait un bruit d'agrafeuse et qui tire.
On dirait aussi un tire-bouchon. Hein.
Ouais, c'est.
En fait, on peut y voir beaucoup de choses.
On n'a pas les mêmes refs. On peut y voir beaucoup de choses. Mais ça me sert tous les jours.
D'accord, dis donc, on a déjà un indice. Waouh !
On peut poser des questions, du coup ?
Voilà, je vous invite, les filles, à poser des questions autour de la table.
Est-ce que ça a un rapport avec les énergies ?
Oui, oui.
Ok.
Pas,
oui.
Pas forcément l'outil,
mais
son travail.
Oui, bah, mon métier, moi, ce que j'en ai fait a un rapport avec les énergies, oui. Mais okay. C'est pas tout le monde.
Est-ce que c'est un métier de soins ?
Oui.
Physique ?
Oui, tout à fait.
Stouff, t'as une question ?
Non. Ah si, où est-ce qu'on met cet objet ?
Oh là là !
Parce qu'on a très envie...
N'importe où. Sur le corps.
Parce que dit comme ça, quand on rigole et tout, on a un peu envie de le mettre dans les fesses de quelqu'un.
Sûr, mais pas à l'intérieur.
C'est vrai, mais ça, c'est parce que vous avez les idées mal placées. Parfois, ça m'arrive de le mettre sur les fesses, mais c'est pas pour les raisons que tu pourrais imaginer. Mmh.
Ça, on dirait comme les petits marteaux que les médecins utilisent pour faire revenir...
Marteau réflexe.
Bouger
le genou.
Ouais, marteau réflexe, ouais. Voilà.
Ça ressemble un petit peu à ça. Mais après, c'est vrai que le but, c'est de stimuler certaines zones du corps. Mais voilà. Je commence à dévoiler de plus en plus.
Donc, t'es pas thanatopracteur.
Non.
Les gens sont vivants, quoi.
Je n'embaume pas les gens.
Mais c'est proche au niveau du terme.
On a dit que c'était dans le soin, dans l'énergie, c'est ça?
T'es chiropracteur.
Oui, je suis chiropracteur.
Waouh, Florine, t'as déjà deviné, bravo. Ah, t'es douée. T'as déjà...
Désolée, j'ai sapé.
Non, écoute, je suis ravie que t'aies trouvé.
Ça consiste en quoi exactement?
Bah oui, ça consiste en quoi?
Alors du coup, le chiropracteur ou la chiropractrice, mais moi j'aime mieux chiropracteur, parce que chiropractrice, c'est un peu moche. Elle va viser à traiter tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, donc tout ce qui est maux de dos, maux d'épaule, tout ce qui est en rapport avec le corps physique, avec une méthode naturelle, sans médicaments. Et en fait, le but, c'est vraiment de libérer le système nerveux, de faire que dans le corps, le système nerveux fonctionne de manière harmonieuse, pour que le corps puisse faire face à l'environnement. Mais ça, dans tous les sens du terme, ça peut être des stimulations de stress au travail, dans la sphère émotionnelle, dans la sphère physique, des gens qui vont porter trop de choses, enfin voilà. Tout ce qui est en rapport avec le corps, de près ou de loin, moi, c'est ça que je fais. Voilà.
Wow. On prend ça ostéopathe, en fait.
Oui, j'allais dire, c'est quoi la différence entre
Alors, moi, je suis pas ostéopathe, donc je peux
ou
pas...
Ou un kiné, ou...
N'étant ni kiné ni ostéopathe, je vais pas pouvoir vous décrire exactement ce qu'ils font, mais par contre, moi, je peux décrire ce que je fais, moi. C'est que, déjà, on a un angle de vue particulier, qui est justement le système nerveux, et... Si on veut utiliser une image, on peut utiliser l'image de l'électricien qui va venir faire que le courant circule bien partout dans le corps. Et vu que le système nerveux fonctionne comme un gros réseau électrique, ça va vraiment être une analogie. Et donc, on avait l'analogie pour les ostéopathes plutôt des plombiers parce qu'ils ont une théorie sur le système vasculaire. Donc voilà, ça va être deux professions qui vont être cousines Par contre, au niveau de la kiné, on dit que les kinés sont plutôt les mains du médecin. Ils vont exécuter ce que le médecin, va prescrire. Et donc, ce sera plus localisé que ce que le travail d'un chiropracteur ou d'un ostéopathe.
Ok.
Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier?
Un peu de tout, un peu de hasard, un peu de goût, un peu de... Je me lance dans un truc, je sais même pas ce que c'est. Oh ben finalement ça me plaît. J'ai rencontré ce métier lors d'un forum de l'étudiant. Je viens d'une famille de médecins, donc j'étais naturellement baignée dans le domaine de la santé, mais j'avais pas spécialement envie de me coltiner les 18 années d'études. Pour être honnête, ça me faisait pas rêver. Et puis, en fait, l'approche non plus me faisait pas rêver. J'avais pas vraiment d'attirance vers tout ce qui est médicaments, tout ce qui est vraiment très... L'approche allopathique globale, hein. Moi, j'étais pas trop attirée par ça. Par contre, l'approche par le corps m'a vraiment fait envie. Et le chiropracteur, parce que je sais que cette profession, elle est très présente aux États-Unis. Donc ça m'attirait parce que je me disais, tiens, mais je voyagerai peut-être un jour, vu que je sais bien parler anglais, peut-être que je pourrais partir aux États-Unis ou bien en Australie, etc. Et en fait, je suis jamais partie. Et je suis chiropracteur, quand même.
Tu parles des États-Unis parce que je crois que c'est l'origine, justement,
oui, c'est ça.
De la chiropraxie.
C'est effectivement... Daniel David Palmer qui a créé cette profession dans fin 1895.
Mais c'est exact, Amel, 1895, mais oui, c'est ça. Et c'est né aux États-Unis.
Exactement, et donc la légende dit qu'il était
rebouteux. Donc déjà, il pratiquait un peu des manipulations vertébrales, etc. Et il avait
fluide.
Un monsieur qui travaillait pour lui.
Un assistant.
Ouais. Voilà, un assistant qui était sourd depuis un accident ou un trauma, je sais plus quoi. Et en fait, il l'a ajusté. Nous, on utilise le mot ajusté pour les manipulations vertébrales. Il l'a ajusté au niveau de sa première cervicale et il a retrouvé l'audition. Et donc, il s'est dit là, il y a un truc vraiment, un lien à faire entre le système nerveux et le fonctionnement du corps qui est très intéressant.
Est-ce que Jésus était chiropracteur?
Peut-être.
On sent que Florine, elle a eu une illumination. Ouais, c'est ça.
Tout s'explique.
Joyeux temps de l'Avent, chers amis, auditeurs, fidèles.
Morgane est ravie.
Je peux aller vomir.
Une question de Anna qui
oui, lève
la main.
Merci de me donner la parole. Alors, comment tu utilises ton petit objet là?
Eh bien, en fait,
qu'est-ce que tu fais avec ça?
Eh bien, comme je le disais, je stimule certaines zones du corps, points particuliers. Ça peut être en rapport avec des points d'acupuncture parfois. Ça peut être vraiment des points stratégiques au niveau articulaire ou musculaire et ça va faire comme une sorte de réinitialisation. C'est comme si je te mettais un petit coup de jus pour allez voilà, ici il faut réinitialiser, vas-y. Donc ton corps en fait est censé faire le boulot après.
Et tu dis petit coup de jus, du coup ça te fait quoi comme
non, c'est juste un petit
un impact.
Oui, un tout petit impact.
Il y a pas d'électricité comme disait
l'électricienne. Ça fait vraiment pas mal
non.
du tout.
Non. Non. Tu veux faire le clic alors au micro? Oh, c'est
et en
fou,
fait, et avant d'utiliser ça sur mes patients, je leur présente toujours parce que justement c'est un bruit un peu étrange. Ils se disent mais il y a des agrafes au bout.
C'est... pas du tout. C'est un petit bout en caoutchouc hein, au bout. Tiens, ouais. Parce qu'il a l'air assez barbare ton objet. Quand ouais, même. Il est en métal et au bout il y a un petit morceau de caoutchouc. Alors tu nous l'as fait tester un petit peu là, Florine et moi on se l'est fait clipper dans la main. On n'a pas trouvé ça agréable du tout.
Non mais parce que là il est réglé au plus fort et selon l'endroit où tu le fais. Enfin, après, c'est ça mon métier, c'est de savoir à quel endroit et comment.
Ah
et
bah oui, on ne s'improvise pas.
Mais voilà, c'est surtout que ça surprend dans le mouvement et le bruit et comme on ne sait pas trop à quoi ça sert, c'est un peu surprenant.
Ouais. C'est ça.
On a plein de questions d'Anna, super.
Et du coup, quelqu'un qui vient de voir... Tu prends du temps pour discuter avec cette personne.
Oui. Non, il lui
faut
direct.
Comment ça se passe? Faut combien de séances? Est-ce que des fois une séance ça suffit? Est-ce que faut venir te voir plusieurs fois?
Alors effectivement, je discute avec la personne. Je fais une anamnèse, on appelle ça. Donc je passe en revue tous les antécédents médicaux, etc. Parce que bon, c'est quand même une profession de santé. Et en général. Selon le motif de la consultation, je vais voir la personne peut-être deux fois, trois fois, quatre fois, ça dépend des fois. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait plutôt en suivi et qui quelque chose qui se fait progressivement. C'est important de comprendre ça parce qu'il y a des gens qui peuvent venir me voir en se disant ah, il va me débloquer d'un coup, ça y est, tout ira mieux. Ben non, j'ai pas de baguette magique, j'ai que un activateur et c'est déjà bien. Et en fait, progressivement, on rétablit des choses, des connexions dans le corps et c'est ça qui est. C'est pour que ça soit pérenne, comme ça.
Oui.
C'est comme ça qu'on dit.
Voilà.
Pour que ça dure longtemps, quoi.
Et majoritairement, les gens ils viennent te voir pour des problèmes bien ciblés ou c'est vraiment hyper vaste la palette des mots.
Parce que c'est beaucoup des problèmes de dos.
Ouais.
Parce et que ben... c'est quoi la porte d'entrée un peu de ton métier?
On va dire que la majorité, ça va être des problèmes de dos, mais là, de plus en plus, les gens consultent pour des problèmes de ras-le-bol général, de nervosité, de tension. Enfin, voilà, il y a vraiment de plus en plus de motifs, des maux de tête, des accidents dont on n'arrive pas à se remettre. Enfin, voilà, ça va être très large, en fait.
Ce qui est surprenant, puisque je suis une de tes patientes, Amel, et Louane aussi. Louane, un jour, elle me dit « Ouais, t'as mal là, Cécile ? va la voir, je te jure, c'est une magicienne. Je dis, ah, c'est bon, j'en ai vu des kinés, des ostéos.
Elle m'a marabouté. Maintenant, je marche et tout, c'est génial.
Moi, d'avoir été en fauteuil.
Tu as du boulot, toi.
Ah, peut-être.
Est-ce qu'on t'appelle lourde, des fois?
Non, mais je le sais.
C'est fini, oui.
On en descend, on fait que.
On n'arrête pas, c'est 14.
Ouais, parce qu'il y a une partie un peu psychanalyse, tu réfléchis à ta vie hein, après. Hein.
Mmh.
Ah ouais.
Ouais. Elle, par rapport à des blocages, j'ai l'impression que. On se dit, c'est un don, c'est quoi? C'est de la télépathie. Tu sens un blocage dans notre corps et tu vas nous dire, dis donc, t'as pas des problèmes avec ta mère, toi?
Non, mais ça, c'est...
C'est pour ça que tu parlais d'énergie tout à l'heure. Tu disais que c'était oui. Un peu en lien avec les énergies.
Oui, voilà. Moi, j'ai choisi de développer ça dans mon métier. C'est pas le cas de tous les chiropracteurs.
Okay.
Mais effectivement, j'ai beaucoup développé mon intuition parce que je trouve que c'est très intéressant de comprendre aussi d'où viennent certaines choses physiques. Parce que la plupart du temps, ça vient vraiment de choses émotionnelles ou de traumas diverses et variés. Et voilà, de relations qui ne sont pas forcément adaptées. Enfin, c'est très, très, très riche de développer ça, je trouve. Ça rend... Et puis du coup, bah, l'outil est beaucoup plus... a un spectre beaucoup, beaucoup plus large aussi. Ouais. Je peux vraiment agir sur... plus de choses, parce que parfois une simple question posée au bon moment sur le bon sujet va permettre le déclenchement d'une réaction en chaîne qui va se produire dans le corps et dans le mental, bien sûr, et qui va permettre d'entamer un processus de guérison, en fait, tout simplement.
Ouais, tu dois vraiment être témoin des gens qui somatisent, quoi, à fond.
Ah oui, 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 la somatisation, c'est énorme.
Ouais.
On fait tous un peu ça, non?
Bah oui, mais ouais. En fait, c'est aussi à ça que ça sert, les douleurs, en fait. Ouais. La plupart du temps, c'est ouais. Genre, bah oui... Là,
ton corps te parle.
Voilà, c'est ça.
Toi, tu sais le lire, en fait.
Bah...
T'essayes.
Voilà, c'est un essai.
Un essai plutôt concluant.
Hein. C'est pas sectaire, puisque moi, quand j'allais te voir, à la fois, je faisais de la kiné, puis tu me disais que c'est tout à fait complémentaire, puisqu'il va travailler différemment sur mon corps, de rêve, et toi, différemment.
Ça. Ça me fait rire.
Mais c'était drôle.
Oh, merci. C'était drôle, oui. Oui, c'est vrai, c'est absolument. Enfin, oui, moi je suis pour la pluridisciplinarité. C'est un mot difficile à dire.
Tu l'as bien dit, hein. Ouais.
Et voilà, c'est important d'inclure. Effectivement, on n'a pas les mêmes modes d'action. Même parfois, deux chiropracteurs qui travaillent différemment peuvent.
Oui.
Voilà. Oui.
Et un somatopathe ou une somatopathe, dans ce cas-là, si vous avez un lien dans l'attention, le soin de la somatisation, comment...
Eh bien, figure-toi que je n'ai jamais consulté de somatopathe et j'entends parler de ça que depuis que je suis à Laval. Je ne connaissais pas avant ce terme-là et donc certainement qu'il doit y avoir des choses qui se rapprochent, qui se rejoignent. Mmh. Ouais. Après, on l'a... Enfin, moi, c'est aussi empirique, c'est aussi de ma... À force de pratiquer, de mon observation, etc., j'ai pu étoffer un peu mes connaissances, etc. Mais peut-être le somatopathe va partir avec une longueur d'avance dans le sens, dans ce domaine-là particulier, tu vois. Alors que moi, j'ai étudié pendant 6 ans des choses vraiment très médicales, de la sémiologie, énormément de choses en rapport avec les maladies même, quoi.
6 ans, tu as dit ?
Oui.
Ah oui, quand même.
C'est extrêmement scientifique comme formation.
Oui, oui, oui.
Et biologique et tout ça.
Oui, j'avais même de la chimie organique en première année. J'en ai eu pratiquement aucun souvenir, mais, mais oui, c'est très large.
Ok, 6 ans, ouais.
Ouais, c'est quand même pas mal.
Une question d'Anna.
La dernière fois.
Avec plaisir, c'est génial.
Combien ça coûte?
De quoi, une séance?
Oui, c'est ça. Oui, j'allais demander si c'était remboursé par la sécurité.
Alors non, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais il y a des mutuelles qui prennent en charge.
Ouais.
Ça dépend des praticiens. Tu veux savoir ce que moi je pratique comme
prix? Par exemple,
Moi, en première séance, je demande 60 euros et en séance de suivi, je demande 50 euros.
Ok.
Ouais. Voilà. Et ce qui était surprenant, là on parle d'argent, et simplement en France, donc soit tu as ta mutuelle qui te rembourse puisque la sécu ne prend pas ça en charge, et tu me disais donc aux États-Unis, vous le savez, il n'y a pas de système de sécu.
Non.
Et donc les Américains, tu me disais que quitte à payer et ne pas être remboursé, ils vont direct voir le chiropracteur avant d'aller voir les autres corps de métier. C'est assez... ils ont tous... Tu me disais ça?
Oui, il y a beaucoup ce réflexe-là, là-bas.
Ouais. Bah, qui, si,
pour
si,
tout ce qui est trouble physique.
Voilà, pour tout ce qui est trouble musculo-squelettique, si une personne doit payer 100$ pour aller voir un médecin généraliste qui va lui donner des antidouleurs ou voilà, des anti-inflammatoires, bah, il va aussi volontiers aller chez le chiropracteur qui va payer aussi 100$ de sa poche et qui va voilà, agir peut-être plus efficacement, plus rapidement. Mais c'est vrai qu'ils ont ce réflexe-là bien plus qu'ici en France.
Oui, parce que c'est un métier qui est assez peu connu. Comment ça a été perçu dans ta famille de médecins alors que tu sois chiropracteur?
Oui, c'est une bonne question. Ouais. Écoute, voilà, ils s'en sont pas trop mêlés. Ils se sont dit, bah, ok, si ça te plaît, voilà, okay. Ils sont pas trop. Ils ont pas trop tiqué ou quoi.
Et dans ta formation, comme ici on est un peu dans une radio un petit peu avec beaucoup de femmes, est-ce que tu dirais que quand tu as été formée ou t'es. Ou les chiro en général, ce sont des hommes, des femmes. Il y a un pourcentage de plus important d'hommes ou de femmes.
Eh bien, avant, les générations peut-être il y a 20 ans, c'était majorité d'hommes. Et maintenant, c'est plus des femmes.
D'accord. Hein.
Ouais, on a pris le dessus.
Mais j'ai l'impression que ça s'inverse aussi dans la médecine, que c'est beaucoup de femmes, parce que je vois toutes les médecins en formation sont des femmes.
Oui, ouais, ouais. C'est vrai.
Qui ouais. arrivent dans les cabinets, au moins des cabinets. Ouais.
En tout cas, moi, j'étais contente de mettre en valeur un métier et surtout qui apporte le soin d'une autre manière et qui n'est pas connu. Donc, je trouvais ça important. Je crois quand même, vous êtes très peu nombreux, vraiment très peu nombreux. Pour regarder sur page jaune, il n'y a pas trop. Donc, en tout cas...
1500 en France.
1500 en France,
ouais,
j'ai lu.
1500 en France,
ouais. Page jaune, ça n'existe pas.
Plus ça. T'as le beau temps à la maison.
Il cale le lit. Et du coup, Amel, vraiment, je te remercie d'être venue ce soir pour nous faire découvrir un nouveau métier qui, je suis sûre, autour de la table aussi vous a fait découvrir autre chose.
Je ne connaissais pas du tout.
Ouais, super.
C'est très important de prendre soin de soi.
Ouais.
Je vous remercierai plus tard.
Ouais, merci Louane.
Oh là, quel beau cadeau de Noël tu nous as fait, Louane. C'est magnifique.
Merci à toi, en tout cas, Amel.
Et oui, c'est déjà
on viendra
fin.
Te voir.
On est obligé
avec
de conclure.
Plaisir.
Je sais que c'est toujours dur, mais ça passe bien vite. Mais déjà, merci à vous, chers auditeurs, auditrices, de votre écoute. Je vous laisse vaquer à vos cadeaux de Noël. Car oui, on le sait tous, qu'à t'écouter, t'es obligé, t'as fait tes cadeaux de Noël déjà. Alors qu'on le sait tous, c'est faux. Tu n'as rien fait. Je te vois. Alors, tu vas t'y prendre la veille, on le sait. Tout ça pour acheter une bouteille de vin à papy et une carte cadeau à ta nièce. Donc allez, une fois que t'as écouté ton émission préférée, je te laisse vaquer à tes cadeaux de Noël sur cette belle musique de la Queen Riri. Forget about the world.
Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures.
Les dinosaures mangent l'homme, la femme hérite de la terre.